Radio Harmonie Cornouailles.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons parler dans cette émission d'un peuple qui s'appelle les Wanda, un peuple autochtone du Canada dont l'histoire et la culture sont très riches. Et pour explorer ce sujet, qui d'autre que mon invité, Christophe Hervé, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir sur Radio Harmonie Cornouailles. Vous-même, vous êtes issu, de par vos origines, de ce peuple de la région des Grands Lacs, autour de la baie géorgienne, dans l'actuel Ontario. Christophe Hervé, vous êtes donc officier de gendarmerie à la retraite. Et il y a un an, on va dire presque jour pour jour, vous avez rejoint l'équipe des formateurs du CEFCM, le Centre européen de formation continue maritime, comme chargé de développement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec vous, donc, on va parler de ce peuple autochtone du Canada. On va parler de son histoire dans un premier temps, donc de la culture, mais aussi la spiritualité et puis leur situation actuelle. Mais avant tout, qu'est-ce qui vous relie à ce peuple du Canada, Christophe ?
Une histoire personnelle, tout simplement, qui est la naissance de ma maman naturelle, qui est née au sein d'une communauté Wenda, donc ce que les Français ont appelé les Hurons. Communauté, on détaillera un petit peu pourquoi, mais en gros, elle a été enlevée à son clan familial du fait que, dans les années 50, ce qu'on a appelé un petit peu, presque de l'humour administratif anglais, la Cour de bien-être social, l'a enlevée à sa famille du fait qu'il n'y avait pas de compte en banque individuel à cette époque-là pour les Wenda, mais il y avait un compte de la communauté. Donc, ne satisfaisant pas aux conditions administratives, elle a été retirée à sa famille, mise dans un établissement, lui a changé de nom dans une première fois. Elle s'est baptisée d'un nom d'emprunt et a été à nouveau renommée dans une nouvelle famille d'adoption, effectivement. Et elle a connu quelqu'un, effectivement, du clan, de son clan de naissance un peu plus tard. Et c'est comme ça que je suis né, donc effectivement. J'ai découvert il y a peu, en fait, toute cette histoire. Et c'est une très belle histoire qui explique plein de liaisons derrière qui se sont faites. Et c'est un cercle qui s'est fermé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire Wanda ?
Alors, les Wanda, c'est un terme générique qui décrit ceux qui vivent sur le dos d'une tortue. C'est un terme, en fait, qui signifie cela. C'est à cause de l'origine du monde vue par les Wenda et par l'essentiel des peuples, en fait, qu'on appelle les Iroquoiens, d'une façon générale, qui regroupent une énorme quantité de clans familiaux et de nations, dont les Iroquois, effectivement, mais qui ne sont pas les Iroquois qui ont été décrits dans la littérature française, hein, parce que les Iroquois, eux, sont les Haudenosaunee. Et derrière ça, il y a tout un groupe, effectivement, ethnoculturel qu'on appelle les Iroquoiens, qui se divisent en ceux des Grands Lacs et ceux du Saint-Laurent, voilà.
Ils formaient une confédération de plusieurs nations autochtones, on va dire,
c'est voilà. Ça alors ça, c'est l'histoire, en fait. Le point de rupture se situe au XVIe siècle, avec la confrontation avec les Européens. Et on avait deux grandes confédérations, effectivement, d'État. Il y avait la Confédération des Cinq Nations. Et ces cinq nations-là, donc, regroupaient tous les peuples iroquoiens. Alors, on les a renommés, hein, parce qu'il a fallu... Enfin, les Occidentaux ont eu des soucis pour comprendre, effectivement, les noms autochtones. Hein, donc, on a eu des Iroquois, on a eu des... De l'autre côté, on a eu, par exemple, les voisins de l'Est, c'était les fameux Mohicans, qui sont, eux, non pas des Iroquois, mais des Algonquins. Tous les peuples de l'Est sont des souches algonquiennes. Et tous les peuples autour du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac sont des peuples iroquoiens, sachant qu'au nord, au grand nord du Saint-Laurent, on retrouve les Algonquins.
Voilà. Donc, ce contact avec les Européens date du XVIIe siècle, on va dire, non ? Autour des alliances commerciales.
En fait, on est au XVIe siècle. Les premiers voyages, effectivement, de Jacques Cartier, qui rencontre les peuples iroquoiens du Saint-Laurent. Alors, quand il rentre dans le Saint-Laurent, il fait la connaissance des Algonquins. C'est la première histoire, c'est assez amusant, parce qu'effectivement, Il rencontre des peuples qui habitent une région que les autochtones appellent le Gébeg, qui va devenir le Québec. Et lorsque Jacques Cartier débarque et tombe donc sur des Algonquins, peut-être vraisemblablement des Micmacs qui vivent le long de la Gaspésie, un petit peu ensuite en amont du Saint-Laurent, lui dit qu'il vient effectivement de l'Est, et il montre avec sa main, il montre effectivement la zone de l'Est d'où il vient, et l'autre comprend qu'il lui demande où est sa maison, et donc il lui indique juste dans son dos, il parle du Kanata. Kanata, ça veut dire en fait, dans les langues algonquines, ça signifie la maison. Et donc ça a donné la naissance du terme Canada pour désigner ces terres.
Wow. Comment vous définissez le mode de vie des Wanda? J'ai appris que c'était semi-sédentaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il faut imaginer des peuples qui ne sont pas très nombreux. C'est des clans qui sont composés peut-être de 50 000 personnes à la grande époque du 15e siècle, 14e siècle. C'est des peuples qui vont regrouper chez les Iroquois, par exemple, quelque chose comme 150 000 personnes qui vont se répartir sur des territoires comme 6 à 7 fois la France. Et donc on a une façon d'occuper un sol qui est très fertile au printemps, avec un enneigement effectivement qui arrive l'hiver parce qu'on est très près du centre du Canada. Et donc il y a une façon d'occuper le sol qui est très différente. La propriété individuelle n'existe pas. Et ce sont des clans matrilinéaires, c'est-à-dire que globalement, les familles, l'héritage, ce qu'on appelle un héritage familial, est détenu par le lien des mères et des filles. Mmh. Et globalement, il n'y a pas de notion de terre, d'appartenance de terre. Ce sont des territoires de chasse et qui sont définis et qui peuvent changer au cours de la vie de la personne. Vous imaginez bien qu'un chasseur vieillissant va se voir attribuer des terres de chasse un peu plus près des campements, etc. On est semi-nomade parce qu'en fait, nos villages dépendent de la zone agricole et de chasse dans laquelle se développe le village. Et au bout d'un certain temps, on va laisser la terre se refaire pour avoir une gestion facile, très extensive, parce qu'il y a de la place et il y a très peu de personnes. Et on va s'installer peut-être 50, 60 km plus loin. Et on va excentrer le village. Et puis on va rebâtir un village un peu plus loin pour pouvoir recommencer, effectivement. Ce qui fait que les terres de chasse évoluent, les espèces se reproduisent facilement, etc. Ce qui fait que ça ne pose jamais aucune difficulté d'approvisionnement en quoi que ce soit. Donc, aucune nécessité, par exemple, de développer une forme d'industrie un peu plus performante pour sortir de la terre, par exemple, ce qui vient tout seul, en fait. Voilà.
Donc, vous l'avez dit, ils vivaient dans des villages fortifiés.
Voilà. Les villages, on met des palissades à peu près à partir du XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'arrivée des Européens provoque des alliances et perturbe les alliances, et il y a des grands courants qui vont se dégager. Évidemment, il y a ces clans qui s'allient avec l'anglais et des clans qui s'allient avec les français. Et donc, les villages, on va les fortifier, c'est-à-dire qu'on va faire une palissade autour. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, contemporain des Européens. Mais à la base, donc, c'est des groupes de maisons, des maisons longues, hein, qui peuvent faire jusqu'à 60, 80 mètres de long, qui vont regrouper un clan familial. C'est-à-dire que chaque clan, les cinq grands clans des Wenda, sont divisés effectivement par il y a le clan de la tortue, le clan effectivement qui comprend par exemple 5 à 6 familles différentes qui occupent chacun une maison longue. Maison longue, c'est donc un espèce de structure de bois très haute qui va permettre de résider au niveau des clans familiaux. Ouais.
Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec Christophe Hervé, qui est donc officier de gendarmerie à la retraite. Il travaille actuellement au CEFCM, au Centre européen de formation continue maritime, comme chargé de développement. Nous parlons des Wanda, ce peuple autochtone du Canada. Christophe est originaire, on va dire, il a ses origines dans ce peuple qui a une culture et un mode de vie très très riche. Comment était organisée la société chez les Wanda? Vous l'avez évoqué tout à l'heure que c'était organisé de manière matrilinéaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore un peu plus?
Oui, alors on va dissocier en fait la notion de chef, qui est vraiment une notion très économique chez les Wanda, de la notion de foncier, où ce sont les femmes qui arrangent les terres de chasse et les petits arrangements entre familles pour définir les biens de chacun. Et puis il y a effectivement la partie diplomatie qui, elle, est en contact avec l'extérieur. Les chefs sont élus, c'est-à-dire que globalement, il y a un conseil des chefs tous les deux ans. Le chef est la plupart du temps élu pour un ou deux mandats, en gros, et ce, depuis l'époque de la Renaissance pour nous. Hein. C'est des chefs qui vont être élus par le Conseil des Anciens, donc le Conseil des Cinq Nations, qui vont élire un chef en fonction des circonstances et des besoins, typiquement des besoins économiques et structurels. C'est-à-dire qu'on a besoin de réorganiser, par exemple, l'agriculture, là seulement pour faire venir le maïs, hein, qui est l'essentiel de la production céréalière d'Amérique du Nord de l'époque. Un petit maïs assez coloré, etc. Et pour organiser ces productions, pour organiser la chasse, pour organiser on va dire l'industrie du tannage, par exemple, eh bien, on a besoin de chefs qui soient des techniciens pour organiser la société autour de ces productions vivrières. Donc le chef a vraiment plutôt un chef économique. C'est-à-dire c'est plutôt un premier ministre. Et à côté de ça, on a un homme médecine qui, lui, est quelqu'un qui n'a pas vraiment de vocation religieuse, c'est plutôt quelqu'un qui a une grande connaissance de la médecine, des plantes et de tout ce qui concerne le soin du corps. Donc c'est quelqu'un qui va, lui, avoir une autorité, effectivement, sur la partie, on va dire, c'est un peu le ministère de la Santé, c'est-à-dire c'est une fonction qui, c'est la seule et unique fonction qui est héréditaire et qui va être transmise, donc, soit à ses enfants, et pour peu qu'il n'y ait pas d'enfants qui s'intéressent véritablement à la médecine, aux plantes, etc., eh bien, dans le clan, on aura toujours un enfant ou une fille, un garçon ou une fille, qui sera intéressé par les plantes et va être naturellement adopté par la médecine très tôt pour pouvoir être formé, parce que c'est un des rares métiers qui nécessite une formation très très longue.
Parlez-nous aussi donc de cette influence considérable qu'avaient les femmes dans les décisions communautaires. Et puis aussi, la descendance se faisait par la lignée, on va dire, maternelle.
Oui. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, il y a deux grandes cultures qui sont un petit peu à l'opposé. On a les Iroquois, les peuples iroquois, donc, qui regroupent tous les peuples du centre et puis le long du Saint-Laurent. Et à l'est et à l'ouest du Saint-Laurent, on va voir les Algonquins. Les Algonquins sont plutôt patrilinéaires, c'est-à-dire des organisations classiques que l'on connaît assez facilement en Occident. Et les organisations matrilinéaires des peuples iroquois, eux, donnent des choses assez particulières, ce qui fait que on a compris que ça a évité. Par exemple, la monnaie n'a pratiquement aucun intérêt dans une société où, finalement, les biens sont communs. Et l'attribution des biens se font en fonction des besoins, ni plus ni moins. Et globalement, les gestionnaires sont donc le ministre de l'économie, hein, le chancelier de l'échiquier du clan Wenda, c'est madame.
D'accord. Et s'il y a eu, par exemple, un mariage entre les deux camps, ça peut être compliqué.
Alors c'est assez intéressant parce qu'on a un cas qui est assez célèbre. C'est celle qu'on appelle le lys des Mohawks. En fait, au XVIIe siècle, on a une jeune femme qui s'appelle Kateri Tekakwika, qui est la première sainte et la toute première sainte autochtone d'Amérique du Nord, qui est très connue. Et elle est issue d'une famille mixte, donc assez intéressante, parce que son père est un Mohawk Oneida, qui est issu effectivement des clans matrilinéaires. Pardon. Et à côté de ça, il va se marier avec une Algonquine, qui vient, elle, de l'Est, des régions maritimes. Et le clan dont elle appartient, effectivement, elle appartient, était à l'origine patrilinéaire. Elle va arriver dans une famille matrilinéaire et va donc être propulsée au rang, littéralement, de ministre de l'économie de son clan.
Ah ouais.
Voilà. Et ensuite, bah, on va avoir, effectivement, ils vont vivre donc au sein des Oneidas, des Mohawks. Et on aura une fille qui va être très touchée par la foi chrétienne, parce que, globalement, la culture, aussi bien d'ailleurs de la plupart des peuples amérindiens iroquois, ont une culture, des légendes qui s'apparentent assez facilement à la jeunesse. C'est même très surprenant, effectivement. Et il y a une compatibilité assez extraordinaire, philosophique, entre la religion chrétienne des jésuites qui arrivent ici à partir du XVIe siècle, de façon un peu plus... les hommes en noir, hein, les hommes médecine en noir, et la foi chrétienne, qui est inculturée par les jésuites, ne va absolument pas véritablement choquer. Il y a des clans qui sont un peu plus récalcitrants, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Et une fille comme Kateri Tekakwika, par exemple, va effectivement fonder une communauté à Kahanawake, qui est juste à côté, en fait, de pas très très loin de Montréal, aujourd'hui. Il va fonder une communauté pour justement tous les Iroquois chrétiens. Voilà.
En tout cas, cet aspect spirituel chez les Wanda est très très riche. On va consacrer ce thème dans la prochaine émission. Pour terminer cette première partie de notre entretien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la langue d'origine, enfin, la langue d'origine des Wanda? Elle appartient à la famille des langues iroquoiennes, non?
Oui, c'est ça. Alors, les langues iroquoiennes, il faut quand même savoir que, globalement, on a même effectivement des langues qui sont très très proches, qu'on retrouve très très loin dans le sud. Derrière ça, on a par exemple les fameux Séneca du Sud, etc., qui ont des langues assez communes. Donc les langues iroquoiennes sont extrêmement communes. Les peuples donc, qu'on a appelés Iroquois, que sont les Haudenosaunee, comprennent assez facilement les peuples iroquoiens. Et derrière ça, effectivement, on a une unité linguistique. Le Huron est une langue assez intéressante qui aura été sauvée par l'action des jésuites, en fait, parce qu'ils l'auront écrite. C'est une langue qui n'est pas écrite, avec une transmission orale des traditions. Il y a une forme d'écriture qui est une forme d'idéogramme qui permet effectivement de consigner l'histoire, d'une part. Et on a une deuxième langue qui est celle des ceintures, des traités. Alors un traité, c'est très important parce qu'on est sur des confédérations de nations qui se rencontrent en permanence. Tous les deux ans, on a des grands conseils d'anciens des deux grands groupes. Et là-dessus vont sortir des accords multilatéraux et qui vont être matérialisés par des ceintures qu'on va appeler des wampum, qui sont des ceintures de perles avec un code très particulier et qui servira à la fois comme trace écrite, plus ou moins proto-écrite pour des traités. Et les personnes, on va dire les diplomates qui vont aller négocier dans d'autres peuples, vont porter ces ceintures qui vont leur assurer une immunité pleine et entière et vont pouvoir circuler librement, même en temps de guerre, entre différents clans, pour aller négocier différentes choses. Ce qui fait que les conflits au niveau politique sont toujours très locaux et se résolvent la plupart du temps par de la diplomatie assez rapidement.
Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Christophe Hervé. Je rappelle que vous êtes au Centre européen de formation continue maritime comme chargé de développement, ancien officier de gendarmerie. Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir parlé de vos attaches avec ce peuple autochtone du Canada qu'on appelle donc les Wanda. Dans notre prochaine émission, on abordera l'aspect spirituel chez les Wanda. On parlera un peu des mythes fondateurs, des rites également, des cérémonies, les rêves, les guérisons, les transmissions des valeurs, etc. Merci beaucoup pour nous avoir partagé sur la culture, l'histoire de ce peuple. C'est très très riche. Merci Christophe.
Un grand merci de m'avoir reçu. Puis par avant, je m'excuse parce que le propos est tellement vaste qu'on peut effectivement partir sur une multitude de directions. Et c'est effectivement un sujet qui nécessiterait des développements et qui sont développés par des ethnologues, etc., qui font un très beau boulot.
Merci.